Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, cette semaine, ta chronique portait sur le GMC Hummer EV. Mais comme on a assez parlé tantôt avec le monsieur de GM, tu voulais nous parler d'une semaine de fou hein, que tu as eue avec certains bolides dont on peut à peine se permettre de rêver.
Ouais, puis je vais faire une correction avant parce que pendant la pause, tu me faisais remarquer que le 4 cylindres 2.7 litres turbo de la CT4V, dont je faisais mention en première partie d'émission, c'est aussi un moteur qu'on retrouve dans un Silverado, et c'est effectivement le cas. Alors,
personne ne choisit cette version-là.
Bravo mais... d'avoir flagué l'erreur que j'ai faite, mais effectivement, c'est un moteur. Et c'est drôle de retrouver ça à la fois dans un Silverado et dans un CT4.
C'est pas utilisé pour la même raison.
Absolument pas, mais effectivement, puis c'est un moteur qui a quand même une certaine puissance et qui fait déplacer le Silverado de bonne manière, mais avec un son qui ne cadre pas vraiment avec un camion plein de grandeur.
Enfin, on s'entend.
Alors oui, semaine de fou que j'ai vécu il y a quelques semaines. Je vous fais la liste des voitures que j'ai conduites durant cette semaine-là. Alors, la Ferrari Roma, rien de moins pour commencer. Porsche 911, Carrera 2S à boîte manuelle 7 rapports. Aston Martin DB11 que j'ai présenté à l'émission Salut Bonjour. Vous avez peut-être vu le reportage. Aston Martin Vintage également. Et finalement, la E63 AMG S en version familiale de Mercedes-Benz.
Il y a quelques voitures de puristes là-dedans, on s'entend. Une familiale E63 AMG S puis une Porsche 911 à boîte manuelle, deux roues motrices. Il faut vraiment être un mordu d'automobile pour se commander ça. Là.
Alors, c'est sûr que j'ai complètement capoté sur la Ferrari Roma. Ceux qui veulent en savoir plus, j'ai rédigé un texte sur le site du guide de l'auto à cet effet-là, qui a quand même bien pogné. Je pense que les gens l'ont lu pas mal. Donc, vous aurez plus de détails là-dessus, mais c'est une bagnole qui m'a fait vraiment triper. Je trouve que le look est réussi. J'ai aimé la position de conduite. J'ai aimé le caractère, la dynamique de cette auto-là. La technologie qu'on retrouve à bord, c'est une voiture exceptionnellement impressionnante sur le plan de la technologie, du raffinement, de la puissance, de tout ce que tu voudras. Et j'ai pas eu le choix de la comparer à l'Aston Martin DB11 que j'ai conduit durant la même semaine.
C'est une rivale directe.
Deux rivales directes.
En fait, chez Ferrari, on va aller chercher des acheteurs d'Aston Martin avec ce modèle-là.
Puis, si j'ai à choisir entre les deux, je prends la Ferrari tout de suite. J'ai pas besoin de te le dire que la Ferrari m'a impressionné davantage. L'Aston Martin, c'est un très, très beau cruiser. C'est une voiture superbement confortable. Je donne l'avantage des sièges à Aston Martin qui sont magnifiques. Là. Franchement, là, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais l'Aston Martin est une voiture beaucoup moins viscérale, beaucoup moins précise dans sa conduite. On joue avec le confort. C'est un coupé grand tourisme, mais qui donne l'impression d'avoir 5 ans d'âge si tu le places à côté d'une Roma, ça, c'est clair. La Vantage, beaucoup plus pointue comme conduite. J'ai vraiment aimé ça. J'ai pas particulièrement été impressionné, par contre, par l'habillage intérieur. On est habitué chez Aston Martin à des cuirs en British qui sont...
Mais c'est toujours très sobre, là.
C'est très sobre, mais là, le design intérieur et la qualité des cuirs, j'ai trouvé ça plus ordinaire que dans les Aston Martin de précédente génération, qui étaient des voitures carrément hors de prix et qui dépréciaient la vitesse de la lumière, mais qui avaient ce côté unique, typiquement British, que j'appréciais et qu'on perd peut-être un peu dans la Vantage parce que, évidemment, on a des gènes de Mercedes de plus en plus évidents, mais quand même une bagnole que j'ai appréciée pour sa conduite plus nerveuse, plus rapide, plus sportive à conduire que la DB11, clairement. Alors, à choisir entre les deux, j'irais probablement pour la Vantage, quoique la DB11 a une personnalité qui lui est unique et qui me plaît encore beaucoup. Mercedes E63 AMG, un fantasme de journaliste, mais une amère déception en même temps parce qu'une bagnole qui ne répond pas quand tu appuies sur l'accélérateur. Il y a un délai à l'accélérateur qui est désagréable. Là, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est une bombe.
Mais quand ça opère.
Et c'est violent, ça n'a aucun sens. Puis c'est d'autant plus intéressant de voir ça à bord d'une voiture familiale, mais c'est bourré de craquements, de rattle en bon français. Ouais. C'est inacceptable dans une bagnole de 140 000 $. Moi, je ne pourrais pas accepter ça. La bagnole, elle est géniale, mais j'y ai trouvé trop de défauts pour être impressionné, malgré le fait fait que Mercedes continue de fabriquer une familiale de 600 quelques chevaux, rouage intégral, V8, tout ce que tu voudras. Garde. Il va falloir travailler là-dessus parce que l'assemblage était vraiment décevant. Et l'ultime fantasme, la voiture que je me paierais si j'avais en à choisir une dans le tas, c'est la Porsche 911, encore et toujours. Bon, la Ferrari aussi, mais on est dans un autre budget.
Un autre sphère, là, oui.
Donc, la Porsche 911 pour 160 000 $, une Carrera 2S avec un bel habillage, tellement agréable à conduire. Et lâchez-moi, s'il vous plaît, avec vos donnes et boîtes PDK qui prennent de plus en plus de place. Si vous saviez à quel point ça va bien une boîte manuelle de Porsche 911 ou de Porsche Boxster ou de 718, appelez ça comme vous voudrez, c'est absolument...
Ça se manipule comme une boîte de golf.
Ça se conduit très facilement une Porsche 911. Ça corrige. En même temps, il n'y a pas plus sexy comme design. J'étais pas certain lorsqu'on a lancé cette dernière génération-là du grand feu arrière qui fait le tour de la partie arrière, des hanches qui sont très larges.
Mais c'est ça, on met l'emphase sur la partie arrière et ça me plaît. Là.
C'est une voiture magnifique sous tous les angles. C'est une voiture qui est super tripante à conduire. Tu t'assois à bord, c'est simple, c'est efficace, c'est classique, c'est typiquement Porsche 911. La position de conduite, elle est impeccable. C'est conçu pour le plaisir de conduire et c'est ce que tu obtiens avec ça. Alors, j'ai redécouvert avec cette auto-là le plaisir de conduire une Porsche 911 que j'avais peut-être un peu perdu ces dernières années quand j'ai conduit une 911 turbo cabriolet lourde à boîte PDK, 4 roues motrices. Oui, très rapide, mais vraiment pas aussi tripante à conduire que cette bagnole-là. Et je pousserais peut-être un peu plus la limite en allant chercher une Carrera GTS qui va offrir un peu plus de puissance, une conduite encore un peu plus radicale. Mais je vous rassure tout de suite, conduire une Porsche 911 sur les routes du Québec, malgré la taille des pneus, ça se fait. C'est une voiture qui corrige, qui pardonne, qui va faire d'un mauvais conducteur quelqu'un qui a l'impression de bien conduire. Alors, tu sais, c'est vraiment impressionnant à quel point la technique sur cette voiture-là est au point. Et c'est pour ça que je donne la médaille d'or à la Porsche 911 parmi les voitures que j'ai conduites durant cette semaine-là, même si j'ai une mention d'honneur à donner à la Ferrari Roma qui m'a vraiment fait triper également. Sur ce, Germain, bonne semaine. Et on reparle. Probablement qu'on va avoir d'autres choses à dire sur le Hummer la semaine prochaine. Il va sortir d'autres nouvelles, c'est comme rien.
D'autres rumeurs, d'autres nouvelles.
Ben,
voilà.
C'est comme rien. Alors, ça a été la grosse star de la semaine et ça va durer, comme tu le disais, encore quelques semaines au moins.
Merci Antoine, bonne semaine.
Bonne semaine.